Europe 1,
23h, 1h,
la libre antenne, Sana Blanger.
Bienvenue chers auditeurs, je suis très heureuse de vous accompagner ce soir jusqu'à 1h du matin dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Ce soir, notre émission parlera de pantophobie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la pantophobie ? Eh bien en fait, c'est la peur de tout. Peur des autres, peur de l'échec, peur de s'exprimer en public par exemple. La peur devient parfois notre pire ennemi lorsque nous la laissons s'installer dans nos vies suite à un choc, ou lorsqu'elle ressurgit suite à un traumatisme, ou tout simplement, elle est là, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et vous, chers auditeurs, quelles sont vos peurs ? Comment avez-vous fait pour les dépasser ? Comment pouvez-vous conseiller nos auditeurs pour faire comme vous ? Il faut beaucoup de courage et de tentatives, ça c'est une évidence. Alors, racontez-nous de quel courage vous avez fait preuve. Et puis surtout, dites-nous quel costume de super-héros vous vous êtes paré. Bien évidemment, si vous souhaitez nous contacter pour nous parler d'un autre sujet, la libre antenne reste votre émission. Ce soir, je vous propose d'avoir une pensée d'encouragement pour tous ceux qui, demain, suite à cette émission justement, tenteront de vaincre leur peur. Nous sommes là pour vous apporter du réconfort, une écoute ou une solution, mais la suite vous appartient. Appelez-nous en direct au 3921 pour nous joindre par SMS. Vous composez le 739-21 en commençant par le mot « nuit » et par mail libreantenne@europe1.fr. J'ai encore la chance d'être très bien accompagnée ce soir. Catherine et Jules vous attendent au standard et c'est Andreas Papazian qui réalise l'émission ce soir.
Europe 1, la libre antenne.
Sana Blanger.
Hier soir, nous avions fini l'émission avec Marie-Claire, mais en fait, nous n'avions pas terminé notre échange. Donc là, ce soir, nous retrouvons Marie-Claire pour continuer à échanger sur sa situation. Bonsoir Marie-Claire.
Bonsoir.
Comment ça va depuis hier ?
Ça va.
Bon. Alors, est-ce que vous voulez bien synthétiser, remettre dans le contexte ce qui vous arrive actuellement ?
Voilà, j'ai un problème avec ma fille. Elle, elle nous a complètement mis de côté depuis qu'elle est mariée. Voilà. Je comprends pas pourquoi. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire pour que. Voilà. Est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle a son mari et son fils. Et que, voilà.
Alors, Marie-Claire.
J'ai beaucoup de mal.
Oui, on sait qui ? Vous venez de nous dire, on a beaucoup de mal.
Mon conjoint et moi,
ah, voilà.
Donc son papa et moi, quoi.
D'accord.
Donc nous sommes ensemble depuis 38 ans.
Oui.
Nous ne sommes pas mariés, mais bon, on va considérer que c'est tout comme. Voilà, on a eu une vie peut-être trop pépère, quoi, trop... Voilà, peut-être qu'elle ne s'est pas trop épanouie dans le sens où... Ouais, c'est vrai que peut-être qu'on ne faisait rien d'extraordinaire, quoi. On menait notre vie tranquille, quoi. Voilà, on a toujours travaillé tous les deux. On a toujours fait en sorte qu'il lui manque de rien. Que...
Ouais.
Voilà.
Il manque de rien. Est-ce que vous disiez à votre enfant, puisque en fait votre fille, elle est fille unique.
Elle est fille unique,
De mémoire. Est-ce que vous lui disiez que vous l'aimez ?
Alors, c'est vrai que je ne suis pas tactile et que je ne dis pas des mots comme ça à tire-larigot, mais bien sûr que je l'aime. Mais, de lui avoir dit comme ça, de vie, je me vois, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Je pense que non, c'est sûr que je ne lui disais pas tous les jours « je t'aime », quoi.
Mais est-ce que vous lui avez déjà au moins dit une fois ? Que vous
l'aimez. Oh oui.
Oui.
Oh oui. Oui, oui.
Bon, après, je vais vous rassurer. plutôt que d'aller vers quelque chose de négatif, quand vous dites « je ne suis pas tactile », vous êtes pudique, tout simplement, aussi.
Ouais.
Hein, c'est aussi ce qu'on appelle de la pudeur quand on n'ose pas dire ses sentiments, plutôt que « je ne suis pas tactile », qui est plutôt de toucher. Donc, est-ce que vous aviez des moments, alors pour le coup, si on va vers le côté tactile, est-ce que vous étiez plutôt maternante? Est-ce que vous preniez votre fille dans vos bras?
Oui, quand elle était petite. Après, plus tard, peut-être que non. Non, plus tard, ça s'est estompé. Mais quand elle était petite, oui. En plus, je l'ai désirée quand même pendant 12 ans.
Oui.
Parce que mon conjoint, il avait peur de s'engager à quelque chose. Pour lui, ça lui semblait énorme. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai attendu 12 ans. Donc quand même, une fois qu'elle était là, c'était le bonheur parfait, quoi. C'était, voilà, c'était un rêve qui se réalisait. Voilà.
Dites-moi,
Marie-Claire. Après, plus grande, c'est sûr que non, je ne l'ai pas souvent pris dans mes bras, ouais. Non, c'est sûr.
Bon, il y a de la pudeur, manifestement. Maintenant, du fait que vous ayez attendu cet enfant durant 13 ans, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir essayé de contrôler et diriger sa vie?
En fait, j'ai essayé en sorte de... Je l'ai beaucoup protégé.
D'accord.
Je l'ai énormément... Enfin, maintenant, je me rends compte que je l'ai énormément protégée de l'extérieur. De l'intérieur, elle ne craignait rien. Mais de l'extérieur, oui, je l'ai extrêmement protégée.
Et à votre avis, quand on protège beaucoup, beaucoup son enfant, qu'est-ce que ça peut développer?
Alors, je vais vous l'expliquer.
Ouais.
Des attouchements par mon père. Et j'ai toujours eu cette crainte que si elle allait chez quelqu'un, que ça allait se passer. J'avais pas confiance aux autres, en fait.
D'accord.
J'avais confiance en ma fille, mais pas aux autres.
Alors,
voilà.
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'éventuellement, vous avez transmis, sans le vouloir, à votre fille, cette peur, puisque justement c'est la thématique de ce soir, cette peur qu'il puisse lui arriver quelque chose et par conséquent l'avoir protégée, voire surprotégée.
Oui. Oui, oui. Maintenant, oui, je me rends compte. Oui, oui. D'ailleurs, elle me l'a reproché.
D'accord.
Elle m'a reproché qu'elle a toujours vécu dans une maison de bisounours et qu'on l'avait pas. Elle pensait que la vie, c'était bisounours, quoi, que tout est beau, tout est bien, tout est gentil, voilà.
Alors, hier, vous nous expliquiez que lorsqu'elle a rencontré son conjoint, en fait, ils se sont mis très vite ensemble au bout de 3 mois.
Ils ont fait très, très vite les choses,
oui. Comment avez-vous accueilli votre gendre?
Je l'ai bien accueilli.
Oui.
Sauf que parce qu'en fait, ma fille, elle a eu avant donc son mari actuel, elle a eu une relation qui s'est très mal passée, qu'elle a été battue, il a fallu porter plainte, enfin bon. Et quand la première fois, donc, mon gendre est venu à la maison, je lui dis attention, moi, je donne tout ce que j'ai, tout ce qui rentre chez moi, c'est dans mon cœur. Maintenant, on fait du mal à ma fille, attention. Voilà. Et voilà, donc ça a été le premier rapport. Mais après, ça se passait bien, quoi. Et voilà, il venait manger à la maison, il m'a même offert des fleurs quand il venait manger. Voilà, ça se passait bien. C'est quand ma fille, elle est tombée enceinte.
Oui, c'est ce que vous nous expliquiez hier.
Voilà, c'est quand ma... Et je pense qu'il a voulu... il a la crainte qu'on lui prenne son fils.
Ah oui?
Voilà, j'ai ce sentiment que mon gendre, il lui laisse même pas la place à ma fille d'être mère, quoi. Voilà, parce que je me suis, avec le recul, ça fait quand même 3 ans que ça dure cette histoire. Et avec le recul, au début, voilà, c'était lui qui lui donnait le biberon, qui le changeait. Et je disais, oh, bah, dis donc, c'est un bon papa, parce que c'est vrai que le papa de ma fille, avec par pudeur, il a pas fait ça, quoi. Voilà, il n'a pas changé quand elle était vraiment nourrisson, il n'a pas, mais par pudeur, quoi, c'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est que c'était par pudeur. Et là, quand j'ai vu faire mon gendre, j'ai dit, bah, dis donc, c'est bien, c'est un bon papa, il s'occupe bien de son fils, mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'il ne laissait pas de place à ma fille, même pas à ma fille d'être mère, quoi. Voilà. Et moi, elle m'a accusée tout simplement parce que j'avais laissé le lit défait, parce que j'avais pris un lit parapluie pour quand il venait, ben, que le petit soit à l'aise, qu'il puisse faire sa sieste, que voilà, je pense comme tous les grands-mères, quoi. Je sais pas, je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Eh ben, on m'a accusée que je voulais leur prendre le petit parce que j'avais laissé le lit ouvert, j'avais fait comme une sorte de petite chambre pour lui, quoi. Voilà, on m'a accusé de vouloir lui voler le petit.
Alors, en fait, hier, nous avons abordé le côté un peu intrusif. Mm-hmm. Peut-être que sans vous en rendre compte, je dis bien sans vous en rendre compte, à vouloir vraiment bien faire, eh bien, vous n'avez peut-être pas laissé votre fille vivre telle qu'elle avait envie sa vie.
C'est ce qu'elle me reproche.
Et oui, parce que en fait, ça c'est une des raisons également qui peut créer de la tension entre une mère et sa fille. C'est encore une fois de vouloir contrôler, diriger leur vie, parce qu'on les considère encore comme leur petite fille, et surtout vous par rapport à ces 12 années d'attente. Comme je disais, c'est de les étouffer par amour. Et si elle l'a exprimé, c'est qu'elle a vraiment juste besoin que vous soyez là, à ses côtés, mais pas forcément à la pousser ou à être devant. Voyez, c'est juste d'être à côté d'elle et d'accepter sa vie et juste être un soutien si elle le demande et non pas l'anticiper. C'est peut-être ça, c'est peut-être une piste.
J'ai toujours anticipé tout le temps. J'ai tout le temps anticipé.
Eh oui, par peur, vous l'avez dit. Hein. Mm-hmm. Peur qu'il lui arrive quelque chose. Mm. C'est naturel.
J'ai peur des fois, pour Noël, je ne savais pas quoi. Enfin, elle ne me demandait rien. La jeune, même enfant, elle n'a jamais été demandeuse. Ah ben, déjà, j'avais pensé pour elle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Voilà. Elle n'avait pas ouvert la bouche que déjà, j'allais lui prendre ce qu'elle... voilà. Ça, c'est vrai que je l'ai fait et... À la limite, je le regrette maintenant parce que je me rends compte que c'était pas bon, quoi. Mais
bon,
je sais pas.
On a posé le constat. Maintenant, si on doit avancer, Marie-Claire, vous nous avez contacté, vous m'avez contacté hier pour vous réconcilier avec votre fille.
Alors, je sais pas comment faire.
Alors, la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous allez lui proposer?
Ah ben, je sais pas, je lui ai proposé de passer un peu de temps toutes les deux, d'aller faire les boutiques, là, il y a encore 15 jours, je lui ai proposé de venir parce qu'elle me manquait et que j'avais envie de la voir. Eh ben non, elle a toujours le mot qui va blesser, quoi. Voilà, pour l'instant, elle veut pas, alors je sais... Et que, bon, voilà, tout le monde me dit, ben, il faut du temps. Mais moi, ça fait déjà 3 ans, et ça fait 3 ans, voilà, mon petit, il a 2 ans, et ben, je sais rien de mon petit-fils. Voilà.
Mais elle vient vous voir quand même avec lui?
Oh, très rarement. Là, je ne l'ai pas vu depuis le 25 mai.
Oui,
ils habitent à 10 kilomètres.
D'accord.
Les parents de mon gendre, ils habitent à 300 mètres.
Oui, je comprends. Donc, c'est pas évident pour vous.
Voilà. Moi, pour moi, et puis je voyais pas ça comme ça, quoi. Moi, ma fille, elle était pas comme ça. Ma fille, elle était famille, elle était voilà. Et de jours qu'ils se sont mariés, ça a été terminé, quoi.
Bon, il y a des constats que vous avez faits sur votre comportement vis-à-vis de votre fille, hein. Il y a des choses que vous regrettez.
Oui.
Donc, en fait, la bonne question à poser, c'est vraiment que vous vous disiez: qu'est-ce que je peux changer, moi, dans mon comportement pour améliorer la relation? Vous avez des regrets. Donc, faites en sorte que ces regrets-là soient des moteurs pour inverser la situation et faire en sorte que ça s'arrange. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas.
En termes de comportement.
Ben, moi, après, voilà, quand j'ai compris il fallait plus de rien que je leur dise. Voilà, je suis restée à ma place et le petit, il fallait pas le prendre quand il était dans la poussette, il fallait pas le prendre quand il pleurait. Bon, ben, voilà, quand ils étaient là, ben, je respectais leur truc. Mais oui. Après, de là à plus venir du tout, à plus, j'ai pas eu de contact depuis, je sais pas combien de temps. Voilà, quoi. Je veux dire, après, je sais pas ce qu'il faut que je fasse.
J'ai quelque chose à vous proposer.
Oui.
Prenez soin de vous.
Ouais.
C'est-à-dire, sortez, voyez des amis, ayez une vie sociale. Faites en sorte que vous deveniez ce qu'on appelle une maman inspirante. Une maman inspirante, c'est-à-dire, voilà, une maman qui montre qu'elle est épanouie dans sa vie et que tout ne tourne pas uniquement autour de son petit bébé, de sa fille. Ça peut être une bonne piste pour vous, parce que, par conséquent, vous allez projeter l'image d'une femme épanouie et vraiment, votre fille peut se dire, bah, tiens, voilà, maman est occupée, elle s'amuse, et là, ça inverse la situation. Vous projetez quelque chose de plutôt positif sur vous que constamment une maman qui est peut-être un peu trop, protectrice, oui. Intrusive.
Alors ça, je l'ai compris il y a un an. Sauf que mon conjoint, ne m'a pas suivi. Voilà, pour lui, je lui ai dit, il est en deuil de sa fille, quoi. Voilà, il regarde plus la télé, il écoute plus la musique, on sort plus.
Ah oui, quel dommage.
Ah oui, ben voilà, et je lui ai dit, tant qu'elle verra qu'on est comme ça, eh ben elle reviendra pas. Si elle voit qu'on sort, qu'on continue à vivre notre vie, nous toutes les deux, qu'on se tient la main, les deux et qu'on avance, tu verras qu'elle reviendra. Et lui non, lui il est complètement détruit qu'il y a cette situation. Alors il dit que c'est ma faute, qu'on l'a mis qu'on l'a mis dans la merde. Voilà, que lui il a rien cherché. Alors bien sûr, lui il s'occupait jamais de rien, c'est toujours moi qui prenais tout. Voilà, c'est toujours moi qui me suis occupée de l'école, c'est toujours moi qui me suis occupée de tout.
Oui.
Voilà. Sauf que quand j'en ai eu marre, qu'il y a eu toutes ces histoires et tout ça, je l'ai mis quand même au courant, ah ben là, ça allait plus. Là, c'est moi qui l'ai mis dans la merde. Voilà, lui il rentrait du travail, ben, il savait rien, je ne le mettais pas au courant, je ne lui en parlais pas. Voilà, tout ça pour pas faire d'histoire. Moi, j'ai toujours, voilà, mon problème à moi, j'ai toujours arrondi les angles pour surtout pas qu'il y ait d'histoire. Le problème,
oui,
eh ben voilà, je me trouve dans de grosses histoires, quoi. Parce que ça empathie sur ma famille à moi, ça empathie sur sa famille à lui, ça empathie sur les amis, parce qu'on voit plus personne, il veut plus voir personne, voilà.
Alors reprenez, voilà. Vraiment, reprenez contact, même si vous le faites vous toute seule, et puis en fait, au fur et à mesure, bah vous l'emmenez avec lui, avec vous. Prenez-le.
Parce que, ouais, voilà, mais oui. Ben moi, c'est ce que je faisais. Moi, j'ai ma famille dans le midi.
Voilà.
Voilà, moi, je vais voir ma famille. Toi, tu veux venir, ça t'est avec un grand plaisir. Tu veux pas venir, tu restes.
Oui.
Voilà, donc je fais ça, je vais, voilà.
Prenez soin de vous, Marie-Claire. Pensez à vous maintenant. Comme ça, vous aurez d'autres choses à partager avec votre fille. Vous pourrez lui raconter votre quotidien et puis ça, elle sera certainement moins sur la défensive. Et surtout, plus de conseils, plus de reproches. Même si ça ne correspond pas à ce que vous aimeriez pour votre fille.
Elle vit totalement contraire à ce que nous on a vécu tout le temps, quoi.
Elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est heureuse ?
Franchement,
vous ne le savez pas.
Je le crois. Au fond de mon cœur, je le crois pas.
Eh oui, mais c'est peut-être parce que justement vous êtes sur cette croyance là que ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez confiance en votre fille, dans sa capacité à être heureuse, à identifier quand tout va bien et quand tout ne va pas bien ? Vous lui avez transmis
ma fille,
ça.
Elle est très très influençable. Donc je pense que mon gendre, quand même, il est pour quelque chose qui lui a dit, tu sais, ta famille, tu vas la laisser un peu de côté. Il y a que nous qui comptons, voilà. Parce que ma fille, elle aurait jamais fait ça. Elle ne serait jamais tourné le dos comme ça. Jamais. Je crois pas. Je crois pas. Je pense quand même que mon gendre, il est pour quelque chose. Et comme elle est, comme elle a peur de... En fait, ma fille, elle a tout... je ne sais pas pourquoi, elle a toujours eu peur de ne pas être aimée. Alors que...
Alors, en fait, ce n'est pas la peur de ne pas être aimée. C'est parce qu'en fait, comme vous l'avez beaucoup, beaucoup accompagnée, voire... j'aime pas dire le mot étouffée, mais en tout cas, vous étiez très protectrice. Mmh. Eh bien, en fait, ça développe une peur du rejet après.
D'accord.
Non pas une peur de l'abandon, mais une peur du rejet. Donc, à beaucoup protéger ses enfants, en fait, ça développe cette peur-là. Donc, d'accord, ça peut paraître paradoxal, mais en tout cas, ça explique... il y a un peu de friture sur la ligne. Ça explique en tout cas comment est-ce qu'elle ressent les choses et pourquoi elle est comme ça. Maintenant, d'accord, vraiment, débarrassez-vous de ces croyances-là. Faites confiance en votre fille, vraiment, et dans sa capacité à trouver et à chercher le bonheur. Vraiment. Et occupez-vous de vous, Marie-Claire.
D'accord.
C'est...
Et vous pensez que ça va durer combien de temps ? Enfin, vous n'êtes pas, pas Madame Irma, je le
ouais,
dis
j'ai,
bien.
Mais... Non, je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Hein, sinon,
Je vous promets que les week-ends, surtout les week-ends, parce que bon, dans la semaine, on travaille, voilà, on a un métro, boulot, dodo. Mais les week-ends, moi, c'est, voilà, on est toujours dans l'attente, tout le temps, tout le temps.
Eh bien, justement, c'est bien ce que je vous dis. Arrêtez d'attendre. Reprenez votre main, votre vie en main, reprogrammez tout cela. Et devenez actrice, ne subissez plus.
Ouais, d'accord.
Que vous
Allô
en pensez ? Oui, non, je suis.
Oui,
je suis
oui,
là,
non, mais je suis tout à fait de. Moi, je vous dis, ça fait un an que je l'ai compris, mais le problème, c'est que mon conjoint, il ne suit pas, quoi. Voilà, et ça a été des conflits, mais énormes, jamais, ça fait presque 40 ans qu'on est ensemble.
Ouais, 36 ans.
Jamais on a eu des conflits comme ça, avec du manque de respect, des disputes.
Mais oui, non.
Ça a été de la jalousie, mais alors complètement ridicule, c'est énorme. Il a fallu que je quitte le domicile pendant une semaine, suite à ça, j'ai été quand même voir un psy. Hein,
Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le psy ?
Alors, le psy, à propos de la séparation que j'ai eue pendant une semaine, moi, je suis partie parce que je voulais le faire réagir.
Oui.
Voilà. Par rapport à sa fille, dire bon, ben, voilà, parce qu'il lui a jamais rien dit, et lui dire ça suffit, quoi. Ça suffit. Tu vis ta vie, nous on vit la nôtre, et puis voilà, tout va bien. Mais il a jamais fait de peur de perdre sa fille. Finalement, on l'a perdu quand même.
Vous l'avez pas. Non, Marie-Claire, surtout, n'en rajoutez pas, vous ne l'avez pas perdu, votre fille. Surtout pas. Elle est toujours là. C'est juste qu'il y a un curseur à remettre sur la bonne place, mais je vous garantis que vous ne l'avez pas perdu. Si vous l'aviez perdu, il n'y aurait plus du tout de contact. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas du tout. En revanche, il y a juste à revoir ensemble ce malaise, cette tension qui existe entre vous et eux. Là, j'englobe le couple. Mm-hmm. C'est tout. Mais il n'y a rien de catastrophique, surtout pas. N'en rajoutez pas. N'en rajoutez surtout pas. Dédramatisez la situation, vraiment. C'est pas facile, c'est compliqué.
Ah ouais, parce que...
Voilà, c'est dur.
Mais comme c'est dur, je vous promets, mais c'est horrible d'avoir qu'une seule fille et qu'elle nous ait tourné le dos comme ça sans qu'il n'y a rien qui s'est passé vraiment de dispute, mais ça toujours là quand elle me parle, j'ai l'impression qu'il y a une haine féroce, quoi. C'est fou, quoi.
Marie-Claire, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Alors, nous avons une maman qui souhaite intervenir en direct avec vous et échanger par rapport à la même situation qu'elle a vécue. Vous acceptez?
Bien sûr.
Bon. Bonsoir.
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 Bonsoir, madame.
Bonsoir, Marianne. Bienvenue à la Libre Antenne.
Bon. Oui. Bon, moi, si vous voulez, on s'entend bien, là.
Oui, on vous entend divinement bien.
Alors, super. Oui, je vous entends. Super. Oui. Moi, je vous appelle, si vous voulez. Je voulais vous donner l'endroit Comme ça, au moins, vous pouvez situer.
Oui.
J'appelle du Pays basque.
Oui.
D'accord, mais je ne suis pas basque, hein.
Oui, oui.
Bon, mais bon, peu importe ça.
Mmh.
Et avec ma fille, j'ai vécu ce que vous avez vécu. Mais moi, je ne l'ai pas vécu si mal, hein. J'ai laissé faire. Ben oui, mais si vous êtes tout le temps derrière elle...
Oh ben là, j'ai lâché prise, hein, sauf que de temps en temps, j'ai des angoisses énormes et que là, je lui lance un message.
Ah ben oui, mais là, il faudrait faire une thérapie, parce que moi, ce qui m'a servi, c'est de lâcher prise avec ma fille.
Oui.
Et donc, j'ai tout obtenu.
Alors, quand vous dites lâcher prise, Marianne, qu'est-ce que vous avez fait exactement ?
Ah ben là, je faisais plus le quart, moi. Je demandais plus rien. Je disais, bon, ben, j'envoyais des messages. Je lui dis, voilà, quand tu voudras venir, amène-moi mes petits-enfants.
Je ne lui dis même plus puis, ça. Je lui dis même
non,
plus
non,
ça.
Alors,
parce elle m'a dit, tu aimes plus mon petit-fils
que
moi.
Non. Alors, si vous voulez... Il faut être plus malin qu'eux, parce que les enfants, peut-être parce que j'ai fait une longue thérapie et que j'ai eu un conjoint qui m'a beaucoup, beaucoup appris, hein. C'est-à-dire, bon, il était
majeur de police. Moi, mon conjoint, il ne me suit pas, quoi, c'est ça le problème.
Non, mon conjoint...
On n'est pas main dans la main, quoi, au contraire.
Non, le mien, il était main dans la main. Bon, je l'ai perdu, j'en étais bien malheureuse, bien. Alors voilà ce que j'ai fait, j'envoyais des messages. Elle me répondait et elle me disait « tel jour, telle heure, comme elle travaille, tu viens à la maison ». Et je m'occupais énormément de mes petits-enfants. Quand je partais en vacances en Espagne, je gâtais mes petits-enfants, je leur amenais plein de choses,
ouais.
Je leur apprenais à parler l'espagnol. La semaine d'après, je lui disais « qu'est-ce que je fais ? Je vais chez toi ou tu m'amènes mes petits-enfants ?» Au bout de 2 ou 3 jours, elle me répondait, elle me dit « non, viens à la maison ». Et occupe-toi-en. Ensuite, d'autres messages. Et là, maintenant, je vous assure que c'est vrai, elle m'amène ma petite fille et elle me dit, bah, tiens, elle travaille beaucoup. Hein. Je ne vais pas vous dire quel métier elle a, mais elle travaille énormément.
Oui.
Donc, elle me laisse ma petite fille de 2 ans et demi. Elle me dit, tiens, je te la laisse. Et comme ça, je vais aller me détendre et me promener. Et elle me la laisse de 3 heures le soir.
Elle ne veut pas me le laisser, oh, surtout pas, parce que, oh là là, une fois, il s'est amusé avec le Yupala, il est pas parti un
mais
petit peu.
Mais il faut pas, voilà.
Oh là là, tu te rends pas compte, tu as failli tuer le petit.
Non,
voilà,
non.
Que des propos comme ça.
Non, mais parce que vous ne devez pas lui dire le Yupala, le lit parapluie. Il faut la laisser faire. C'est son enfant, madame.
Attendez, vous avez vos petits-enfants, vous appropriez en fonction d'eux aussi.
Attendez, quel est votre prénom ?
Marie-Claire.
Marie-Claire.
Ah, Marie-Claire. Marie-Claire, qu'est-ce que vous m'avez dit de la maison ? J'ai pas bien entendu.
Je vous dis, vous accueillez vos petits-enfants. Vous savez qu'il faut qu'ils fassent sa sieste, qu'ils mangent, qu'ils jouent. Vous appropriez votre maison en fonction d'eux. Même si c'est pas leur maison. Ben, vous avez bien dit pour lui faire la sieste. Vous avez bien...
Non, Marie-Claire, je ne suis pas tracassière. Je laisse ma fille faire.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Marianne. En fait, il faut... C'est ce que je disais tout à l'heure.
Si Alexandra, si par exemple ma fille, je ne voulais pas dire son prénom,
bah, c'est pas grave.
M'amène son lit parapluie, c'est son lit parapluie. Moi, je ne vais pas acheter un lit parapluie. C'est pas ma fille, c'est ma petite fille. Que j'adore.
Oui,
j'ai
des amis qui ont été grands-parents et ils ont fait en fonction de manière que ça soit plus pratique de pas toujours se balader
non,
avec
Marie-Claire.
La maison.
Non, Marie-Claire,
je vois pas où est le mal, quoi. Je vois pas ce que j'ai fait d'extraordinaire. Et puis, en plus, j'ai toujours vu ma famille faire comme ça.
Mais vous, peut-être que votre fille, ça ne lui plaît pas.
C'est...
La mienne, ça ne lui plaisait pas, donc je ne
c'est
l'ai
possible.
Pas fait. C'est... Et j'ai toutes
oui, Marianne.
Les semaines...
Oui,
comment
je disais, oui, Marianne, Marianne a raison, effectivement, il est tout à fait possible, même si, Marie-Claire, vous avez transmis des choses à votre fille, mais elle a vécu sa vie et peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas et sur lesquelles elle est non pas en rejet, mais qui ne lui plaisent pas, que vous faites.
Voilà.
C'est tout
moi,
à fait possible.
J'ai fini par comprendre que la mienne, ça ne lui plaisait pas. Moi, je ne suis pas tracassière, je ne me prends pas la tête. Je sais que toutes les semaines, ma fille m'amène mes petits-enfants pendant 3-4 heures et j'en fais ce que je veux. Enfin, j'en fais ce que je veux. Attention,
oui,
je leur donne de l'amour.
Oui.
Voilà, le goûter, des biscuits, des petites boîtes de biscuits, là, un coq. Et elle me dit, oh mamie, toi, tu n'aimes pas le coq, je vais te frapper le coq. Après, on va sur la terrasse, elle me dit, on va arroser des plantes. Allez, on va arroser des plantes. Je vais dans ce sens-là, mais je ne veux pas aller contre ma fille. Donc, je fais...
Franchement, je n'ai pas eu l'impression d'aller contre ma fille. Comment expliquer ça?
Marie-Claire, vous allez être malheureuse.
Ah, mais je suis malheureuse.
Elle est déjà...
Je vous promets que je suis malheureuse.
Bien sûr, ça se sent.
J'ai une peine énorme. Énorme.
Moi, j'étais comme vous il y a des années. Mais maintenant, si vous saviez, Marie-Claire, sincèrement, de tout cœur, je vous dis, ce que je suis heureuse, déjà de vivre au Pays Basque, on est tranquille. Donc, c'est clair. Mais en plus, de voir que ma fille, elle-même, elle m'envoie le message et elle me dit, maman, je t'amène, enfin mes petits-enfants, on ne va pas dire, ma petite-fille c'est une poupée, mon petit-fils c'est un rugbyman, il a 13 ans, et tout marche comme sur des roulettes et je suis la plus heureuse. Elle m'a demandé, écoutez voir, elle m'a demandé pour lui faire plaisir à ma petite-fille, au lieu de lui acheter des petits biscuits salés ou des biscuits, achète-lui des petites tomates cerises. Je ne vais pas vous dire le magasin parce qu'on ferait de la pub, je lui achète des petites tomates cerises. Et comme le père est canarien, elle y mange les unes après les autres et moi je rigole.
Je suis prêt. Là, il est intolérant au lait de vache depuis qu'il est né. L'autre jour, pour son anniversaire, je ne l'ai pas eu pour son anniversaire. Et en plus, la semaine d'après, il est né le 15 mai. Le 25 mai, elle est venue. Je lui ai fait un gâteau au yaourt de chèvre. Je lui montre l'emballage, que c'est vraiment de chèvre. Vous pensez qu'à mon petit-fils, je vais prendre le risque de lui faire du mal? Voilà, elle n'a pas voulu lui donner un bout de gâteau.
Alors, mesdames, deux choses. Premièrement, Marie-Claire, je reçois plein de SMS pour vous que je vais vous lire tout de suite.
Oui.
Deuxième chose, je vous invite ensuite, si vous le souhaitez, à continuer à échanger hors antenne, si vous le souhaitez.
Oui.
Et un grand merci à Marianne, vraiment, pour son intervention.
Ah oui, parce que vraiment, elle me fait de la peine, Marie-Claire.
Bah oui, on souhaite vraiment que tout se passe bien.
Bah oui, parce que moi, je vis très, très heureuse, Marie-Claire.
Oui.
Mais oui, mais je sais, mais moi, je pourrais vivre très, très heureuse. Moi, tout ce qui compte, c'est mon conjoint, ma fille et mon petit-fils. Voilà.
Et tout
ce que j'ai voulu leur donner, qu'ils n'ont pas accepté, c'était de l'amour. Alors, voilà, je comprends. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Alors, peut-être que j'ai été intrusif. Bon.
Ou vous projetez que vous êtes tracassière.
Oui, du stress, de l'angoisse. C'est
voilà,
ce qu'on se disait au début.
Moi, je n'ai pas tout ça.
D'où la nécessité de prendre soin de vous. Marianne, un grand merci. Je vous embrasse. Et on vous souhaite plein encore de bons moments avec vos petits-enfants et votre fille.
Bravo. Pas de doute.
Marie-Claire, je vous garde juste un instant et je vous lis tous les SMS que nous avons reçus pour vous. Alors, Marie-Claire, et pourquoi pas écrire une petite lettre bienveillante et positive à votre fille en lui proposant une sortie en famille et en lui disant que vous et votre conjoint, vous seriez très heureux de les voir, pas de reproches, juste se tourner vers l'avenir. Ça n'est pas signé, mais un grand merci. Autre SMS. Et si elle mettait carte sur table avec sa fille et son gendre, au moins, essayé. Elle saura à quoi s'en tenir. Ben oui, on se doute bien.
J'ai essayé.
Ça n'est pas signé, mais un grand merci également. Bonsoir, que cette dame soit patiente. J'ai vu ma première petite fille jusqu'à ses 6 mois, puis plus rien, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais vu la deuxième, qui a presque 3 ans. Aucun contact, malgré mes tentatives. Il faut vivre d'espoir malgré tout. Là également, ça n'est pas signé, mais un grand merci. Alors, non, il n'y a pas de mal à adapter sa maison à ses petits-enfants. Bon nombre de grands-parents font ça. Le souci se situe à un autre niveau. Bon courage, Marie-Claire. Pas facile tout cela. Et c'est signé Cathy. Un grand merci, Cathy. Valérie, la situation de l'auditrice. Alors, elle trouvait que ça n'avait pas grand... Ça ressemblait pas beaucoup à Marianne, parce que là, vous n'avez pas le soutien de votre conjoint. Donc là, effectivement, il y a peut-être effectivement à revoir avec votre époux. Ensuite, oui, Marie-Claire, trop d'organisation autour du petit-fils donne à votre fille l'impression que vous voulez vous approprier son enfant.
Oui, elle me l'a reproché.
Bon.
Mais j'ai fait ça dans le sens de faire du bien, pas de faire du mal. C'est ça le problème, c'est qu'il s'est... Et puis ma fille, enfin, je pensais que ma fille, elle me connaissait, quoi. Je sais pas.
Vraiment, encore une fois, là, je occupez-vous de vous. C'est nécessaire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et en prenant soin de vous, vraiment, en retrouvant vos amis, en sortant, un peu comme ce que faisait Marianne, hein, vous allez renouer contact, c'est une évidence, avec votre fille. Elle n'aura peut-être plus le sentiment d'être toujours au cœur et au centre de tout. D'accord ?
D'accord.
Bon, okay. Vous nous tenez au courant ?
D'accord.
Marie-Claire ?
Je vous tiens au courant.
Bon.
C'est gentil.
Bah, c'est normal.
Merci beaucoup pour tous les SMS.
Et oui.
Puis, bonne continuation.
C'est la voilà. Libre Antenne, c'est votre émission.
Merci.
Je vous embrasse.
Merci beaucoup.
La Libre Antenne sur Europe 1.
Sana Blanger.
Nous attendons toutes vos réactions en direct au 39-21 et vous pouvez également, en tapant le mot « nuit », nous envoyer vos SMS au 7-39-21. Un grand merci parce que c'est toujours un pur bonheur que d'écouter et de lire aussi vos SMS. Comme on dit, deux cerveaux valent mieux qu'un. Et tout de suite, nous accueillons Laure. Bonsoir Laure.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci. Alors avant toute chose, je tiens à dire que je suis déjà passée, donc s'il y a des auditeurs qui vous disent que je suis déjà passée, c'est normal, voilà.
Oui, mais c'est justement très intéressant, toujours, d'avoir un retour, de savoir comment est-ce que ça s'est passé suite au premier appel, si les conseils qu'on vous a donnés ont porté leurs fruits ou pas, donc non, ne vous excusez pas, la Libre Antenne est votre émission.
Ok, donc... Alors, j'étais déjà passée avec Sophie Peters et je lui avais raconté mon histoire comme quoi j'avais déjà travaillé dans le nettoyage et du coup, j'avais eu une expérience malheureuse et j'avais décidé, à cette époque-là, j'hésitais entre deux métiers.
Oui.
Et du coup... J'ai hésité entre plusieurs choses. Et à cette époque-là, j'étais à l'école de la deuxième chance. Donc voilà. Je vais y arriver. J'ai hésité entre deux choses. Et finalement, grâce à la Libre Antenne, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, j'aimais bien tout ce qui était relations, téléphone. Donc du coup, on a décidé de partir sur une autre... piste avec la conseillère qui me suit pour l'emploi.
Mmh.
Donc voilà, je suis partie sur ces métiers-là. Voilà, donc c'est tout récent, donc ça vient de pas longtemps.
Ça date de quand ? Ça date de quand exactement cette prise de poste ?
Ça date du mois de juin, donc c'est pas si vieux que ça. Donc
oui.
C'est pas, voilà.
Juin, juillet, août. Donc ça fait 3 mois.
Voilà. Ça fait 3 mois.
Donc
voilà,
vous avez un nouveau poste. Donc vous avez un nouveau poste.
Et... J'ai pas de poste, je travaille pas.
Ah, d'accord. Alors,
je travaille pas. Je...
J'avais compris en fait que vous aviez trouvé un nouveau poste.
Non.
Ah, ok.
Je travaille pas, je suis en recherche d'emploi, je vois ça. Et du coup, je suis suivie par une conseillère au pli. Ça aussi, c'est la Libre Antenne qui m'avait conseillé de me faire inscrire au pli, qui pouvait m'aider, parce qu'à cette époque-là, j'hésitais entre plusieurs métiers. Et du coup, les stages, ça m'a permis de décanter certaines pistes qui ne m'intéressaient pas, comme D'accord. la vente. Je pensais que ça m'intéresserait, mais finalement, non. L'animation, non. Travailler avec les enfants, non. Enfin voilà, j'ai pu écarter plein de pistes que j'aurais pu peut-être m'orienter par accident et finalement, ça ne m'aurait pas plu. Donc, en 2016, j'ai trouvé un travail dans le nettoyage. Oui. J'ai beaucoup aimé.
Oui.
Sauf que ben, je me suis fait virer. Donc, j'ai fait 6 mois et après, c'était terminé. Donc, c'était, pour préciser, c'était mon tout premier contrat. Et suite à ça, vu que l'émission de ce soir, elle parle des peurs, ben, je n'ai pas réussi à rebondir derrière. Bon, j'ai eu un contrat d'un mois et demi en 2017. Mais voilà, maintenant, dès qu'un patron m'appelle, j'ai peur. Dès que je suis embauchée quelque part, j'ai peur. N'importe quel métier, j'ai peur. Voilà, j'ai peur pour à peu près tout, en fait. Et c'était pour ça que j'avais appelé Sophie. Elle m'avait conseillé de... Enfin, elle m'avait conseillé des choses qui n'ont pas marché sur moi parce que je lui avais dit que ça ne marcherait pas. À ma connaissance, je savais très bien que ça ne marcherait pas. Et voilà.
Donc, aujourd'hui, vous êtes en recherche
d'emploi.
Et quand bien même il y aurait une opportunité qui se présente, vous avez-vous le sentiment de passer à côté parce que vous manquez de confiance en vous?
Exactement, c'est ça. J'ai beaucoup, beaucoup de recruteurs qui m'appellent pour faire du nettoyage, mais je sais que je ne veux plus en faire, donc c'est pour ça que je leur dis non.
D'accord.
Et comme je dis à ma conseillère, ils pourraient m'appeler pendant 10 ans, ce serait pareil, ce serait toujours non, 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 non. Et pourtant, je continue à postuler à ça, parce que je sais que j'ai que des qualifications là-dedans. Donc du coup, il faut que, ben, il faut qu'on fasse une formation ailleurs pour pouvoir parler de notre métier, pour que je me sente plus à l'aise. Puisque finalement, quand je fais d'autres choses, ça marche et je ne suis pas stressée. Donc finalement, c'est ça le problème, c'est le nettoyage. Donc il n'y a pas à chercher loin, en fait.
Alors, donc, vous n'aimez pas ce poste-là? Enfin, l'environnement non. du nettoyage, vous n'aimez pas, hein, d'accord. Alors, par rapport à votre conseillère Pôle emploi, est-ce que vous avez déjà demandé à faire un bilan de compétences?
En fait, j'avais rendez-vous le 11 avril de cette année.
Oui.
Et du coup, le rendez-vous, c'est pas que j'ai pas pu y aller, c'est que j'ai pas trouvé l'endroit. Et du coup,
ben,
voilà. D'accord. Et du coup, elle a voulu me refaire rencontrer quelqu'un, ma conseillère du pli, mais c'était dans le nettoyage. Mais je lui dis, ça sert à quoi que j'aille rencontrer quelqu'un pour qu'on parle du nettoyage, pour qu'on fasse un bilan de compétences dans le nettoyage? Ça ne servira à rien, puisque je ne souhaite pas poursuivre dans ce métier-là.
Vous avez quel âge, Laure?
J'ai 26 ans et demi, j'ai 27 ans là, la semaine prochaine.
Ah oui, vous êtes toute jeune.
Oui, c'est ce que tout le monde me dit, mais malheureusement, c'est bien beau d'être jeune. Mais
oui, oui, non, mais vous
pas
êtes...
pas grand-chose, c'est ouais. bien d'être jeune, mais ça ne nous apportera pas plus que ça, en fait.
Si. Quand on donne du sens à sa vie et qu'on sait exactement ce vers quoi on a... Alors, cette situation-là, nous l'avons tous vécue. C'est-à-dire, ne pas savoir... ce qu'on a envie de faire quand on a vécu un licenciement.
Oh.
On est perdu. Oh. Soit parce qu'on a le sentiment d'avoir vécu une injustice, ou en tout cas, on ne se sent pas bien et c'est tout à fait légitime.
Oh.
Maintenant, heureusement, en France, nous avons la chance d'avoir des structures d'accompagnement pour soit une reconversion, ou en tout cas, identifier ce dont on a envie ou nos appétences. Donc nos appétences, nos envies, et c'est peut-être plus vers ça qu'il faut, dans un premier temps, faire, c'est demander un bilan de compétences pour savoir où est-ce que vous pouvez enfin vous épanouir professionnellement. Puisque quand on est dans l'épanouissement, là, on n'a plus de boule au ventre le matin quand on part au travail. Ce qui est important, c'est de trouver vraiment ce qui nous plaît. Dans le travail.
Notre voix.
Oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Laure?
Ben moi, c'était les métiers de la librairie, mais c'est pas possible. Donc après, il faut chercher autre chose. Donc,
pour quelle raison ce n'est pas possible?
J'ai pas le niveau pour faire ce métier-là.
Alors, la librairie, c'est... Vous aimeriez faire quoi exactement dans une librairie?
Librairie spécialisée manga.
Librairie spécialisée manga. Ah, vous me rappelez ma sœur qui adore ça. Eh oui.
C'est la vie.
Bon, donc, pour maintenant, donc vous êtes en train de me dire que vous avez une passion.
Oui, c'est ma passion, oui, c'est ça.
Et oui, donc si vous avez une passion, ça veut dire que vous êtes extrêmement calée, normalement, sur tout ce qui est justement manga.
Alors, oui.
Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez très bien écrire à des librairies spécialisées en manga, ou même vous déplacer, aller les voir, et expliquer que c'est votre passion, au contraire.
Mais il n'y en a pas sur Marseille. J'ai tenté d'essayer de faire un stage, ça n'a jamais marché. Il n'y en a pas sur Marseille.
Il n'y en a pas sur Marseille ?
Non.
Est-ce que vous avez déjà pensé vous-même à écrire, enfin à créer un blog ou un site internet sur justement
J'ai une chaîne YouTube.
Ah, vous en avez déjà une ?
J'ai une chaîne YouTube qui
parle
de manga.
D'accord.
Oui, oui.
Oui, donc il y a quand même des choses que vous avez faites.
Ah ben oui, quand même.
Ouais. Bon, oui. Alors, juste avant les actualités, est-ce que vous avez, qu'on vous fasse un peu de pub, l'adresse de votre chaîne YouTube ?
Ma chaîne YouTube s'appelle Lecture Passion.
Lecture Passion. Eh bien, voilà. Ça. Bon, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Faut peut-être creuser encore un petit peu plus là-dessus.
Peut-être.
Ah ben oui. Si ça vous épanouit complètement.
Oui, mais c'est pas possible, donc on fait comment ?
C'est-à-dire, ça n'est pas possible ?
Ben, je vous l'ai dit, le niveau, je ne l'ai pas.
Mais le niveau, moi, voilà, j'ai envie d'être... je ne comprends pas.
Ben, on m'a clairement fait comprendre qu'avec mon niveau, ce n'était pas possible. Quand j'ai discuté avec des professionnels que je les ai rencontrés et qu'on a discuté ensemble, ils m'ont clairement fait comprendre que mon niveau, ils n'étaient pas, c'était pas fait pour ce métier-là.
On se retrouve juste après les infos, ok ?
Ok, ok.
Europe 1,
23h, 1h,
La Libre Antenne, Sana Blanger.
Suite de la Libre Antenne jusqu'à 1h du matin. Est-ce que nous sommes toujours avec Laure ? Laure, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Bon. Alors, Laure, j'ai des SMS très pertinents à vous lire. Il y en a un qui me plaît beaucoup, qui a été envoyé par Marilyn. Et Marilyn vous dit pourquoi Laure ne ferait pas des enregistrements de livres manga et se faire connaître auprès des mal ou non-voyants. C'est pas mal, ça.
Ah, je sais pas.
Vous ne savez pas ?
Je sais pas. Je vois pas ce qu'elle veut dire, en fait.
Eh bien, en fait, c'est de rendre tous ces mangas audibles.
Ah.
Eh oui. Il y a vraiment...
Je sais pas si ça existe.
Eh bien, justement, si ça n'existe pas, c'est... là, pour vous, c'est l'autoroute du bonheur.
Je ne sais pas comment faire. Hein. Déjà, pour mes vidéos, je me débrouille à peu près. Alors, je ne sais pas. Mais oui, c'est peut-être une idée, je ne sais pas.
Oui. Alors, moi, j'entends beaucoup de prétextes, Laure. Et quand j'ai quelqu'un en coaching...
Non, surtout, c'est pas des prétextes, c'est de la peur. C'est pas pareil.
C'est ça. Et quand en coaching, j'ai quelqu'un qui me dit « oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais », je me dis, bon, quand on ne veut pas, on cherche des prétextes, et quand on veut, on trouve des solutions. Vous avez réussi à trouver une passion. Bien évidemment, cette passion, ça ne veut pas dire forcément qu'elle peut devenir un travail. Rien à voir.
Et moi, je ne veux pas qu'elle devienne un travail. Je me suis résolue à ça, que ça ne deviendrait jamais un travail. C'est ma passion, point. Je serais
voilà.
Vendeuse de manga, voilà, point.
Bon.
C'est tout.
Ceci étant... vous avez essayé de trouver un poste dans une librairie spécialisée. Là encore, ce n'est pas une question de niveau. Si vous y allez physiquement, que vous vous présentez, que vous dites que vous avez une chaîne YouTube, etc., ça peut être un argument, mais extrêmement recevable et plutôt en votre faveur pour être recruté dans une librairie. Ça, on met de côté. En revanche, moi, ce que j'entends, c'est effectivement votre peur et votre angoisse.
Ben oui, ben c'est justement là-dessus que j'aimerais travailler, que c'est pas normal d'avoir autant peur. Je pense que c'est dû à l'expérience passée, je pense.
Absolument.
Et j'arrive pas à aller au-delà, en fait.
Oui, parce que vous voyez votre verre à moitié vide.
Je me sens vide, en fait. Je me sens invisible, en fait. Voilà, c'est ça. Je me sens plus là, en fait. Je suis plus là. Et du coup, voilà. On peut m'appeler autant de fois qu'on veut. Voilà.
Vous ne vous sentez pas à la hauteur?
Non. Je me vois pas. Je sais très bien que je serai jamais vendeuse de manga. Je me suis résolue à ça. J'ai essayé de trouver un stage, ça n'a pas marché. Je me suis pris plein de portes. J'ai essayé, j'y croyais. Et puis finalement, j'ai rien eu. Donc voilà, et après quand les vendeurs disent, vous savez, on n'a pas le temps de prendre un stagiaire, on peut pas, on n'a pas le temps de s'en occuper, voilà, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas possible, et puis voilà, il faut passer à autre chose, il faut trouver autre chose. Voilà,
d'accord, donc de ce que je comprends, vous avez quand même essayé
oui.
Voilà,
oui.
Sur la piste des mangas, on est d'accord?
Oui, j'ai quand même essayé, bien sûr, j'ai pas laissé tomber. Je suis pas quelqu'un qui laisse facilement tomber. Je me bats jusqu'au bout.
Ouais,
si c'est pas possible, après je laisse tomber. Après, il faut avancer, on va pas rester non plus.
Alors, et déménager, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable pour vous?
Non, j'ai pas les moyens financiers. C'est vrai que j'y ai pensé, mais je peux pas, j'ai pas les moyens financiers. Donc
alors, je vous dis ça parce que nous avons reçu un SMS de Marie qui dit à Saint-Malo, il y a une librairie spécialisée manga qui vient d'ouvrir et recherche du personnel.
Ah.
Ouais.
Ouais, mais il faut des compétences, il faut déjà des expériences, j'en ai aucune.
Vous voyez, je vous propose quelque chose, vous me dites oui, mais.
Ouais, mais ça fait un peu loin aussi.
Appelez-les.
Moi, je veux faire quelque chose sur Marseille, il n'y a quasiment rien, il faut tout faire. Il y a une librairie manga, ils ne prennent pas de stagiaire, je voudrais faire ça sur Marseille, je voudrais être concurrent, moi.
Bon.
Je veux faire ça sur Marseille, je ne veux pas faire ça là-bas.
Alors, effectivement.
Après, la proposition est intéressante, mais bon, après, sans compétences aussi, ce n'est pas évident aussi de trouver.
Moi j'ai un travail à vous proposer.
Travail?
Oui. Moi, je vais vous proposer, dans un premier temps, de travailler sur vous.
Travailler sur moi?
Eh oui, parce qu'il y a effectivement un tel manque de confiance qu'on pourra vous donner tous les conseils, toutes les adresses. J'ai le sentiment que vous n'y croyez pas d'avance, alors que pourtant vous dites, c'est paradoxal, hein, vous dites, non mais moi je me bats, je vais jusqu'au bout. On est d'accord, c'est paradoxal.
Oui, mais je sais, c'est moi ça de toute façon, c'est moi. C'est tout à fait moi.
Alors,
vous m'avez bien cerné.
Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur vous, autre que l'accompagnement du Pôle emploi?
J'ai déjà vu un psy, mais ça ne s'est pas bien passé. Du coup, je ne veux plus en voir. Moi, je voudrais voir un psy spécialisé dans le travail, parce que c'est là-dessus que je veux travailler. Je ne pense pas qu'il y ait de choses à dire sur moi. Je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais raconter sur moi qui pourrait m'aider pour trouver un travail ou une formation. Voilà, moi, je voudrais travailler sur le travail, trouver un psychologue sur le travail. J'essaye d'en trouver un. À la rentrée, je vais essayer d'en trouver un.
Alors, ça n'est pas un psychologue pour le travail que je vous recommande dans un premier temps. En fait, quand on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, moi, ce que j'entends, c'est des angoisses, manifestement. C'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, un manque de confiance en vous-même, dû à une mauvaise expérience, la peur, probablement, de retrouver un poste et d'être encore licencié. C'est aussi ce que j'entends.
Oui, voilà.
Ce qui peut être vraiment pertinent pour vous, c'est soit de faire de la sophrologie, du yoga, de l'hypnose, par exemple. Ça peut être quelque chose de vraiment pertinent pour vous en termes de travail, de développement personnel vous concernant. Parce que c'est d'abord vraiment dans la tête qu'il faut travailler. Retrouvez-vous, là, alors.
Oui.
Le sentiment de vide, nous avons eu un auditeur hier qui l'avait également. Et Et vraiment, voilà, je lui ai recommandé de se retrouver, de se reconnecter avec lui-même, d'être aligné avec soi-même. Donc,
c'était pas David ?
Absolument, c'était David. C'est exactement. Donc, vous avez. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Oui, enfin, je n'ai pas trop compris pourquoi il appelait, mais après, j'ai compris ce que vous lui avez dit. J'ai pas trop relié ça à moi, en fait. Parce que moi, c'était pas. Ça avait pas trop un lien avec ce que moi, je dois travailler.
D'accord. Donc, quand vous me dites j'ai un sentiment de vide, alors qu'est-ce que c'est chez vous ?
Un sentiment de vide, bah, c'est-à-dire de voir les. Par exemple, de voir tout le monde de ma famille qui se lève pour aller travailler le matin et moi, je me lève pas. Donc, ça me rend vide. Je me sens seule, toute seule, en fait. Et du coup, bah, voilà, les journées sont longues.
Alors, quelle est la solution à laquelle vous ne pensez surtout pas, enfin, vous ne voulez surtout pas en entendre parler ?
Surtout pas entendre parler. Je vois pas. J'ai pas compris la question.
Eh bien, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas entendre ?
Qu'est-ce que je veux pas entendre ?
Ah, oui.
C'est pourquoi tu vas pas travailler, cherche un travail, va travailler, des trucs comme ça, quoi. Des trucs qu'on me répète sans arrêt, alors que c'est pas que je veux pas aller travailler, c'est que ben, je trouve pas, ou oui, on m'appelle, mais je veux pas y aller, en fait.
Oui, ça, on a bien compris. Et ce qui est paradoxal, c'est encore une fois, vous nous dites, je ne veux pas y aller, mais j'envoie des candidatures dans le nettoyage.
Bah parce que c'est y a que là où j'ai des qualifications. Je ne vais pas aller postuler dans des choses où j'ai pas de qualifications. Je vois bien que quand je postule dans des choses où j'ai pas de qualifications, ils me rappellent pas. Donc c'est logique. Voilà.
Donc on va revenir à la première piste. Voir votre conseiller Pôle emploi. Lui demander vraiment de faire un bilan de compétences.
Suite, un bilan de compétences.
Voilà.
Oui.
Suite à ce bilan de compétences, vous saurez exactement quelles sont les dimensions, en tout cas, de travail qui pourraient vous correspondre. Les environnements où vous allez enfin vous épanouir. Donc ça s'appelle un bilan de compétences.
Ça, je lui en avais parlé à ma conseillère, mais elle voulait me faire passer un bilan de compétences avec une entreprise de propreté.
Non. Là, c'est vraiment un bilan de compétences du Pôle emploi.
Bilan de compétences du Pôle emploi.
Oui.
Okay. Donc, il faut que j'écrive à ma conseillère Pôle emploi.
Ou que vous alliez, oui, voilà, pour un entretien. Et puis, vous verrez, il y a plein de tests, des questionnaires qui vous permettront de savoir exactement où est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir, quelles sont vos forces et ce que vous pouvez apporter en termes de valeur ajoutée dans une entreprise. Et donc, ce ne sera pas forcément...
Il me semble que j'en avais déjà passé un avec Arrive. Et c'était... Arrive, c'est Action renforcée innovante vers l'emploi. Et j'en avais passé un. Et ce qui ressortait, c'était ce qui était métier d'écriture, métier.
Mais ne restez pas sur une impression, d'accord ? Vous demandez un bilan de compétences, et puis à la rentrée ou là, faites au moins une séance de sophrologie. Ça sera certainement très intéressant sur ce qui va en découler par la suite.
Ok.
D'accord ?
Ok. Parce que ma conseillère m'avait aussi parlé d'un atelier de développement personnel.
C'est ça.
Donc,
dans les ateliers de développement personnel, il y a des questionnaires, il y a des tests qui vous permettent de savoir exactement ce vers quoi vous pouvez aller, même sur une reconversion professionnelle. Mais ce qui est important, encore une fois, Laure, c'est vraiment de vous poser, de vous dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie.
C'est ça, oui.
Voilà.
C'est la question que je me pose.
Eh bien, le bilan de compétences est là pour vous éclairer, vous aider.
Non. Pas m'aider à moi, c'est surtout l'aider à elle, pour qu'on puisse travailler sur des pistes.
C'est vous aider, enfin, vous.
Nous aider toutes les deux. En fait,
oui,
voilà.
C'est exactement ça.
Qu'on puisse avancer toutes les deux.
Que vous puissiez avancer ensemble, en équipe.
Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est ça, parce que à chaque fois, je lui dis, à chaque fois, on se voit pour parler, mais finalement, on n'avance pas. Ça fait depuis le mois de décembre qu'on se voit et on n'a pas avancé. Voilà, quoi. J'aimerais bien avancer. C'est ce que je veux. C'est ce qu'on veut toutes les deux. Voilà.
Oui. Ouais. Bon. Ouais. Bon. Eh bien, rendez-vous sur un prochain appel, alors.
J'espère que je vous donnerai des bonnes nouvelles.
Ben, on le souhaite aussi, bien évidemment.
Oui.
D'accord.
Allez.
Bon,
ben,
je vous embrasse.
Merci, merci.
Au revoir, là.
Au revoir, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sana Blanger.
Toujours autant de réactions au 739-21 par SMS. Un grand merci, vraiment. Bah vous pouvez continuer parce que ça fait du bien de vous lire. Je reçois tout de suite Géraldine. Bonsoir Géraldine.
Bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Bon, merci.
Que vous arrive-t-il, Géraldine?
Ben écoutez, je vous écoute depuis 4-5 émissions et je me suis dit que je pourrais essayer de parler avec vous de mes peurs.
Oui.
Et de voir finalement comment peut-être les dépasser.
Bien sûr.
Alors, grossièrement, j'ai peur d'aimer, j'ai peur de souffrir, j'ai peur des émotions. Et ça se manifeste bien sûr dans les relations avec un conjoint. Et ça se manifeste aussi dernièrement avec mon père et encore un peu plus lointain, dirais, ma sœur. Donc voilà, je fais un beau panel de peurs.
Ah oui, effectivement.
Dans la communication.
D'accord.
Et dans les craintes.
Oui, il y a beaucoup de craintes en fait.
Oui. Je ne sais pas comment aborder mes problèmes. Ce n'était pas quelque chose que j'avais avant. Et voilà.
D'accord. Eh bien, moi aussi, je suis là en train de me dire, par quoi va-t-on commencer?
Exactement.
Bon, alors, et si on commençait par la priorité aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pèse le plus?
Bah écoutez, je vais prendre peut-être quelque chose. Allez, je sais pas, je me lance.
Oui.
C'est pas forcément ce qui me pèse le plus, mais c'est ce qui me pèse beaucoup.
C'est ce qui
Alors,
vous pèse? J'ai pas entendu.
C'est ce qui me pèse beaucoup.
Ah, c'est...
Voilà. Alors, je sais pas si c'est le plus, mais bon, on va commencer par là.
Oui.
Avec mon père, je suis allée le voir pour son anniversaire. J'avais amené des cadeaux. Et en fait, il m'a dit, mais pourquoi t'es venue? C'était son jour d'anniversaire, précisément. Je suis quand même à 2 heures de l'endroit où il demeure.
Géraldine, dites-moi, est-ce que vous avez mis le haut-parleur ou est-ce que vous êtes sur un kit main libre? Parce qu'en fait...
Oui, ça résonne beaucoup pour vous.
Oui, j'entends presque...
Pardon?
J'entendais presque un mot sur deux, donc c'était pas évident pour moi de...
Je vais essayer de modifier ça.
D'accord.
Alors... Est-ce que c'est mieux pour vous?
Oui, ça semble.
Voilà.
Voilà, d'accord. Donc, vous parliez de votre papa?
De mon père. Donc, en fait, je suis allée le voir pour son anniversaire.
Voilà, donc c'était l'anniversaire
de votre père. Il est quand même à 2 heures d'où je demeure. Et je lui avais amené quelques petits cadeaux. Et il m'a dit, pourquoi t'es venue?
Ah oui.
Après, il m'a dit, mais je t'avais déjà interdit de venir le matin. Ça, c'était nouveau pour moi. Parce que je ne savais pas qu'il ne fallait pas venir le matin. Et puis, finalement, ben, je lui dis, ben, écoute, je viens pour ton anniversaire. Voilà, je t'amène des petites choses. Ça me faisait plaisir. J'avais tout préparé, tout un tas de petites choses. Et il m'a dit, pose ça là. Et puis, ben, écoute, voilà, merci. Et j'ai compris que, quelque part, il fallait que je parte. Alors, il faut savoir que mon père, mes parents,
oui,
ne m'ont jamais dit, contrairement à Marie-Claire, qu'ils m'aimaient. Je n'ai pratiquement pas eu de relation tactile, ce qui fait que moi-même, à part quand j'aime et quand je peux, enfin quand je pouvais donner de l'amour, moi par contre je suis très tactile, très très bisous, très câlin, très. Alors que là, ben justement, je suis dans une grande mise à distance de tout ça. Pour pas en souffrir, je pense.
Oui, donc il y a
et
du...
là, mon père n'a fait que aggraver une situation.
Donc il y a du rejet, en fait. Vous vous sentez rejeté par les deux ou juste par votre père?
Ma mère n'a rien dit parce que ma mère, de toute façon, l'amour de sa vie, c'était papa, c'était pas ses enfants, même si elle a une préférence dans ses enfants. Ce n'est pas moi d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est pas grave. Si vous voulez, l'amour de sa vie, c'est papa. Donc, elle n'ira jamais contre quoi que ce soit. Même qu'elle viendrait peut-être à penser même comme lui, quoi. Papa était quelqu'un que moi, j'aimais beaucoup. Beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour.
Oui, oui.
Mais il m'a appris à me taire, à ne pas rechigner, même si à l'adolescence j'ai un peu des actes d'un peu de rébellion.
Mmh.
Mais il fallait une espèce de soumission. Soumission finalement que je refusais dans ma tête pour ma vie affective,
oui,
mais que j'ai quand même accepté jusqu'à la violence.
Jusqu'à la violence,
voilà.
C'est-à-dire
et puis,
Géraldine. Vous avez dit jusqu'à la violence. Vous avez dit jusqu'à
oui,
la violence.
Oui, j'ai été une femme bastue.
Ah, je suis désolée.
Oui, oui, oui. Et donc, je crois que j'ai accepté beaucoup de choses. Moi, j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup. Je me suis occupée de ma sœur. J'étais, dès l'âge de 2 ans, peut-être même moins, on mettait ma petite sœur avec moi dans la chambre.
Oui.
C'était moi qui la cajolais, c'était moi qui lui donnais ma main à travers les barreaux de son petit lit pour qu'elle soit réconfortée. C'était moi, en fait, qui ai beaucoup fait le rôle de maman. C'est moi qui m'en suis occupée pour son école, parce que aucun de mes parents n'est allé jamais, à part pour ma à l'école, jamais personne ne s'est déplacé pour savoir ma scolarité ou rencontrer les enseignants, jamais. Donc moi, je l'ai fait pour mes sœurs, d'ailleurs.
Vous êtes une fratrie de combien?
Trois.
Trois sœurs?
Oui.
Ouais. Est-ce que vous avez au moins une réponse à cette question, à savoir pour quelle raison est-ce que il n'allait pas voir les professeurs à l'école ou...
Alors, il y a une explication, par exemple, pour maman.
Oui.
Maman n'avait pas les capacités pour aller rencontrer les professeurs. Elle n'a jamais été à l'école, donc on ne peut pas lui demander à elle. Papa, lui, se réfugiait toujours derrière le travail. Donc, il n'avait pas le temps, il ne pouvait pas, et ce n'était pas important.
Oui.
Pour vous dire, quand j'ai eu mon bac... J'étais contente parce que ma scolarité n'avait pas toujours été très facile.
Oui.
Et quand je lui ai dit j'ai mon bac, il m'a dit c'est bien pour toi. J'ai travaillé pour toi. Donc j'ai appris
à grandir
seule. À ne pas avoir, mais. Je crois que là, après toute mon existence, après toutes les difficultés, j'aimerais bien recevoir.
Eh oui, je comprends. Je comprends complètement. Au moins, un encouragement, un soutien, de la chaleur. Un témoignage d'affection.
Oui, tout à fait.
Oui.
Mais et si même c'est... avec ma sœur, donc je me suis pas mal occupée, je l'ai pas mal soutenue, même des fois contre des choses vraiment qui ne me convenaient pas par rapport à ma morale. Mais c'était ma sœur. Eh bien, il y a à peu près un an, eh bien, elle m'a envoyé un message parce que j'étais pas tout à fait d'accord sur ça. On avait fêté l'anniversaire du mariage de mes parents, hein, et je n'étais pas tout à fait d'accord sur le cadeau, et ma sœur ne voyait pas pourquoi c'était absolument ridicule que je ne sois pas, d'accord. Moi, je n'avais pas envie, hein, et ma sœur, quand elle veut quelque chose, elle l'impose, un peu comme mon père.
Oui.
Et finalement, quelque part, je me suis rebellée, alors que je suis l'aînée quand même. Et, elle m'a envoyé un mot avec tout un tas de phrases totalement absurdes pour moi, dont une qui était, elle parlait de moi et de mon autre sœur, « Vous êtes jalouse », ce qui n'est absolument pas, mais alors pas du tout, un sentiment que j'ai envers aucune de mes sœurs, d'ailleurs. Ouais. Bon. Donc, tout ça m'a mis qu'actuellement, ma sœur, je l'évite un maximum. Mes parents, depuis cette histoire, je ne peux plus y aller tellement que j'étais malade. Vraiment, ça m'a fait trop
oui,
mal.
Oui, ça a dû... Oui, bien évidemment.
Vraiment, ça m'a... J'en étais malade. Malade.
Est-ce que vous...
Donc, du coup, je n'arrive plus à y retourner. Alors, je me culpabilise parce qu'ils sont... Bon, ils ont un certain âge et que je pourrais leur pardonner. Je pourrais leur pardonner si c'était que dernièrement, mais ça fait tellement d'années. Alors j'ai du mal maintenant à pardonner. C'est trop douloureux.
Je comprends.
Et je ne sais pas trop quoi faire face à ça.
Alors, les réponses. Quant
aux relations avec un homme. Je mets ça vraiment tellement à distance, parce que vraiment... Alors je suis... ça ne me correspond pas, parce que moi, j'ai besoin d'amour, en fait.
Oui, comme vous avez besoin d'amour. Est-ce que vous avez déjà posé la question, ou est-ce que vous connaissez la relation de vos parents avec leurs parents? Est-ce que vous savez comment ça se passait?
Pas facile.
Déjà.
Parce que, vous savez, maman, son père était parti.
Oui.
Donc, elle voyait dans mon père, finalement, son père.
Ah oui.
Elle était, je pense, parce qu'elle m'a dit, ton père ressemblait à mon père. Mais, Donc, ma mère, c'était l'aînée, hein, donc... malheureusement, à l'époque, elle s'occupait un peu de sa famille, d'où le fait qu'elle n'a pas été à l'école. Et puis, mon père, lui, très très jeune, il est allé travailler en ville, loin de ses parents, parce que c'était la meilleure solution, apparemment, pour qu'il puisse s'en sortir.
Oui.
Ce qui s'est d'ailleurs passé, parce que, tous les deux, c'était des courageux, des travailleurs. Je ne peux pas leur renier ça.
Oui.
Mais je comprends. Et en même temps, je ne comprends pas, quoi. Je comprends leur... je comprends, mais je ne comprends pas, quoi.
Alors, au-delà de comprendre, ce qu'il faut, c'est les accepter tels qu'ils sont.
Pardon ?
C'est... Au-delà de comprendre, parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent, il faut partir du principe qu'il faut accepter les parents que nous avons tels qu'ils sont. Et c'est aussi une façon de grandir. Maintenant, ce que j'entends, et là, nous avons reçu un SMS d'Emmanuel, avec qui je suis vraiment d'accord, je pense qu'elle trouvera ses marques d'affection ailleurs que dans sa famille. Est-ce que vous avez des enfants, Géraldine ?
Non, malheureusement. Je crois que quelque part, c'était volontaire.
Est-ce que vous avez une famille de cœur, des amis ?
J'ai beaucoup de connaissances et d'ailleurs tous les gens me voient comme quelqu'un de très fort, de très équilibré, de très sûr, quelqu'un qui vient à leur aide. Mais chez moi, c'est pas ça, quoi.
Est-ce que vous vous sentez prête à vous dire je n'attends plus rien de mes parents et surtout de mon père? Est-ce que vous vous sentez prête à cela?
Je croyais être déjà là-dedans, mais la dernière fois, je me suis rendu compte que non, quoi.
D'accord. Moi, j'ai deux propositions à vous faire, deux méthodes qui marchent vraiment bien et qui vous permettront aussi de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie et notamment sur comment est-ce que vous avez été éduqué. Petit 1, ce sont les messages contraignants. Donc, vous allez sur Internet. Vous avez Internet?
Oui, je peux.
Donc, ça s'appelle les messages contraignants.
Les messages contraignants?
Absolument. Et les messages contraignants vous diront sur quelle constellation vous avez été éduqué. Je pense que vous êtes sur le « sois fort » puisque vous dites que vous êtes une femme forte. Ce qui vous permettra de savoir de quels parents est-ce que vous avez le plus hérité en termes de comportement. Donc les messages contraignants.
Les messages contraignants.
Voilà.
Oui.
Et puis,
en fait, on ne me le disait pas vraiment, sois forte, mais on me l'imposait.
Oui, c'est ça.
Par exemple, dès 8 ans, par exemple, il m'a dit, tu vas écrire une lettre. Bon, oui. Je n'ai pas écrit Paris à l'époque avec un S.
Oui.
Ben, je me suis prise une belle paire de baffes.
Oui,
vous me direz, je n'ai pas oublié que Paris s'écrivait avec un S.
Oui.
Mais ça a fait que pendant des années, j'étais lamentable en dictée. Jusqu'au jour où un enseignant a pris le temps a pris le temps de voir avec moi les erreurs, etc. Et là, en fait, je suis passée, je vous dirais, de 20 fautes par dictée à une faute, quoi. Et donc,
oui. Justement, l'un des messages contraignants, c'est « sois parfait ». En fait, il y en a 5. C'est soit parfait, fais des efforts, fais vite, fais plaisir, sois fort. Et en fait, quand vous ferez ce questionnaire, vous verrez sur Internet, donc ça s'appelle les messages contraignants. Et en faisant ce questionnaire-là, en y répondant, vous verrez donc sur quel message est-ce que vous avez été surtout éduqué et par conséquent, qu'est-ce que ça a développé et créé en termes de comportement chez vous. Ça vous donnera des pistes par rapport à vos angoisses, à vos peurs. Là, moi, il y a à la fois la peur de l'abandon et la peur du rejet. Il y a les deux qui se mélangent.
Oui, je pense.
C'est ça que j'entends.
Je pense que comme, en fait, à première vue, j'ai pas peur d'être abandonnée, j'ai pas peur d'être rejetée, mais à l'intérieur de moi, je pense que c'est ça. Oui, je pense.
Oui. Et vraiment, donc ça c'est le petit 1. Petit 2, c'est une méthode aussi qui marche bien, ce sont les bonhommes allumettes. Qui permet les bonhommes allumettes, comme une allumette, qui permet d'allumer le feu, une allumette.
Ah, les bonhommes, allumettes.
Allumettes et non pas les bonhommes à lunettes. C'est ça que vous aviez compris. Hein. Bon, si vous tapez les bonhommes à lunettes, à mon avis, vous aurez plus des opticiens et ophtalmos que la méthode en question. Donc, ça s'appelle les bonhommes allumettes.
D'accord.
Comme la petite fille aux allumettes.
Oui.
Et donc là, ça vous permettra également peut-être de rompre quelque chose, une peur, une angoisse, une situation. Et ça marche très bien aussi.
Oui.
De la sophrologie peut-être un peu pour vous? Du yoga?
Bah écoutez, je m'y suis lancée.
Ah, bravo.
Mais, oui. Oui. Alors, les bonhommes.
Allumettes.
Allumettes.
Alors,
messages contraignants.
Les messages contraignants, c'est très très bien. Je le dis vraiment pour tous les auditeurs. Quand on se pose beaucoup de questions sur le modus operandi, à savoir je suis très exigeante, je suis très dure, je comprends pas pour quelle raison. Les messages contraignants permettent d'avoir un très bel éclairage sur notre mode de fonctionnement. J'ai reçu un autre SMS pour vous. Que cette femme soit dans la bienveillance envers ses parents. Il est des générations où les parents n'étaient pas démonstratifs dans leurs sentiments. C'était l'époque où on se mariait avec des enfants, où on avait des enfants, et ainsi allait la vie. Donc ça rejoint un peu ce que je vous disais, c'est d'accepter les parents tels qu'ils sont.
Mais si vous voulez,
c'est
ce que j'ai pu faire longtemps, de les accepter comme ils sont. Parce que bon, bah, par exemple, moi, papa m'envoyait... c'est moi qui traitais tous les problèmes administratifs quand j'étais gamine, à 12 ans, pour toute la famille. Et aujourd'hui, je suis même en phobie administrative.
Oui, non, mais vous avez été très, très marquée, manifestement. Et puis vous êtes tellement dans l'attente, dans le besoin de reconnaissance qui ne vient pas, ça crée une vraie frustration chez vous. Et par conséquent, on perd ses repères, enfin voilà, on sent bien que vous êtes perdu presque.
Je pourrais continuer comme ça.
Mais surtout pas.
En mettant mes parents à distance et ma famille, et puis en n'ayant pas d'émotion. Mais je me sens pas bien là-dedans non plus.
Pas d'émotion, ça n'est pas possible. Nous sommes faits de chair et de sang. Nous avons un cerveau reptilien, un cerveau limbique et un cortex. En tout cas, le reptilien, vous ne pouvez pas lutter contre. Ça n'est pas possible.
Voyez,
et le limbique surtout. Donc non.
Vous voyez, le fait d'avoir une certaine maltraitance... Oui, je crois que je ne me trompe pas quand je dis ça... une certaine maltraitance familiale m'a fait accepter finalement une maltraitance avec mon mari.
Alors là, ce sera encore un autre sujet à traiter. Et malheureusement, j'ai d'autres auditeurs qui attendent derrière.
Bien
là,
sûr.
Déjà, vraiment, Géraldine, j'espère qu'avec les deux méthodes que nous venons de voir ensemble, cela vous permettra déjà d'avoir un éclairage sur... la suite, vraiment.
Ce qui veut dire que pour vous, il faut quand même que il vaut mieux, quand même mieux que j'aille quand même voir mes parents plutôt que je me protège en n'allant pas les voir.
Dans un premier temps, c'est surtout pensez à vous, protégez-vous, et c'est vous qui savez exactement si aller les voir vous fait du bien ou si au contraire. C'est pas bon du tout. C'est vous qui avez la réponse. C'est vous qui détenez la vérité. Mais pensez à vous et écoutez-vous surtout. Ne vous forcez pas si vous sentez que c'est pas bénéfique pour vous. Et puis, vous mettez de la distance, vous prenez des nouvelles par SMS ou en leur téléphonant quand même. Mais mettez peut-être un petit peu plus de distance et exprimez-vous par la suite, si jamais au moins ils se rendent compte que justement, vous prenez moins de nouvelles. C'est aussi à eux de réagir, là. D'accord ? Je vous souhaite une bonne nuit et surtout plein de bonnes choses pour la suite.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse, Géraldine.
Au revoir.
Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sana Blanger.
Et nous accueillons tout de suite notre dernière auditrice, et c'est Karine. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
Bienvenue Sana, à la libre antenne.
Merci Sana, comment allez-vous?
Ça va. Ça va.
Il faut quand même vous poser la question.
Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup.
C'est normal.
Merci.
Je vous en prie. Je vais vous exposer un petit peu la situation que je vis depuis 22 ans.
22 ans ?
Oui. J'ai vécu un divorce franco-allemand très douloureux,
oui.
Puisque mes enfants comment dirais-je, sont partis vivre chez leur père. Elle n'avait que 4 ans et 3 ans. Voilà. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, elles ont 21 et 22 ans, j'ai pu les voir régulièrement, chaque année jusqu'en 2009, à peu près 3-4 semaines par an. Et ensuite, les années se sont écoulées et il m'est arrivé de ne les voir que 3 semaines. Et à partir de 2011 jusqu'en 2012, ça a été plus d'un an et demi. Et pour ma fille aînée, 3 ans et demi sans la voir, par exemple.
D'accord.
Et pour l'autre de mes filles, c'était une fois par an, une semaine par an. Donc, en tant que maman, ça a été terrible et ça restera. Même si mes enfants m'encouragent toujours à ne pas vivre dans le passé. Elles vont très bien. Déjà, elles étudient à Marseille, elles préparent de longues études.
Ouais.
C'est
fait, comme on dit.
Oui, elles sont équilibrées, c'est vraiment formidable. Par contre, voilà, l'objet de mon appel, il s'avère que j'ai une femme dans mon entourage qui n'est autre que ma sœur, et j'ai même honte de vous dire que c'est ma sœur, puisqu'au moment où j'ai quitté le père de mes enfants pour violence conjugale, déjà elle ne pouvait pas se permettre de juger puisqu'elle n'était pas dans mon couple, je suis revenue j'ai donc quitté l'Allemagne pour revenir vivre chez ma mère, et elle ne l'a pas du tout accepté, cette situation, parce qu'elle considérait que ma mère devait me laisser dans la rue avec mon enfant alors âgé 9 mois et demi, et j'étais également enceinte de 2 mois.
Elle vous l'a dit ouvertement ?
Elle l'a dit à ma mère, oui.
D'accord.
D'accord. Ensuite, elle s'est fâchée avec ma mère pour cette raison. Donc, depuis 22 ans, elle ne parle plus à ma mère. Ce sont des insultes, ce sont des horreurs. Et puis, elle s'était permise, donc j'ai quitté le père de mes enfants le 4 décembre 1997. Et cette personne, donc ma sœur, l'aînée de la fratrie, s'est permise d'écrire le 14 décembre, une semaine après, qu'il fallait employer un détective privé, engagé plutôt, retirer l'enfant, donc Anne-Valérie, puisque j'étais une mère dangereuse et folle, et que j'allais certainement me suicider comme mon père, et que la naissance de l'enfant qui allait venir quelques mois après était un non-sens.
Mmh.
Et, oui, oui, oui. Mais des horreurs, Sana, vraiment des horreurs.
Oui,
Oui. Oui, vraiment. Donc, vous comprenez bien que lorsque mes filles sont parties au mois de septembre 2001, j'ai rencontré mon médecin de famille, une psychiatre, et de là, ils ont pris, et ça, je les remercierai encore, ils ont pris la décision de m'hospitaliser d'urgence, en psychiatrie. Donc, c'était une hospitalisation d'office. Et donc, je suis passée par la case isolement pendant quelques jours. Oui. Donc là, c'est terrible.
Oui.
Franchement, c'est terrible. Et puis, effectivement, de par cette situation, il a fallu que je reste me reposer et rester minimum 3 mois. Mais ça n'était rien par rapport à ce que j'avais vécu. Et il s'avère que cette femme, en fait, a toujours été vis-à-vis de moi, lorsque j'étais enfant, très méchante.
Vous êtes combien dans la famille, Karine ?
4.
Cette femme est l'aînée. Et vous situez où sur les 4 ?
Je suis 3e.
La 3e, d'accord.
Elle a toujours été méchante. Elle me frappait, je me souviens. Elle frappait aussi mon autre sœur. Elle était peut-être jalouse parce que j'entretenais une excellente relation avec mon père, qu'elle n'aimait pas, parce que mon père n'avait pas une situation financière suffisante à ses yeux. Et voilà, quoi.
C'était spécial à la maison, hein, manifestement. Parce que vous avez en plus parlé de suicide de votre papa. C'est passé très vite,
oui.
Mais...
Ouais, il y a 35 ans. Alors, en fait, j'ai été... On m'a avoué que j'étais bipolaire, mais je pense que je devais l'être quelques années après le départ de mon père, parce que je sentais bien dans ma profession, j'avais parfois des difficultés. Bon, j'avais un poste à responsabilité.
Oui.
Je sentais bien que c'était parfois très difficile. Il y avait beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Mais il s'avère que je n'ai pas choisi d'être malade. Et je pense qu'il faut savoir respecter la maladie d'autrui, parce que la souffrance, je l'ai vécue à travers mes parents, puisque mon père était violent vis-à-vis de ma mère. Et que voulais-je dire encore ? Eh bien, ma sœur, en fait, a accueilli l'homme avec lequel j'avais pris la décision de divorcer, elle le vénère aujourd'hui. Ça fait 24 ans, elle le vénère comme si c'était son mari. C'est quand même assez bizarre.
Ah oui, effectivement. Et comment savez-vous qu'elle le vénère ?
Mais ils sont toujours en contact.
Ah, d'accord.
Depuis 1997.
Donc en fait... Vous n'avez plus de contact avec elle, mais en revanche, elle continue à alimenter et à entretenir une relation avec votre ex-papa de vos enfants.
Voilà.
Ouais, c'est vicieux.
Il lui est même arrivé, et là ça a été abject de sa part, donc ça a des propos abjects, hein, incohérents. Il lui est même arrivé de me battre dans une boutique à Guérande et de me dire que je savais qu'elle avait vu mes enfants. Moi, ça faisait plus d'un an que je ne les avais pas revus. Et je savais qu'elle les avait vus puisqu'elle était conviée à l'anniversaire du père de mes enfants. Et quand je lui ai posé la question à savoir comment mes filles allaient, elle me dit « je n'en sais rien, je ne les ai pas vues, et de toute façon, comment peux-tu être la mère de tes filles puisque tu n'as jamais su les élever ? Tu es folle, retourne dans ton hôpital psychiatrique, tu es cinglée. » Et je vais vous dire quelque chose, Sana, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis 2 mois, elle a vécu un drame, c'est que son fils de 33 ans s'est suicidé.
Oh non. C'est terrible.
Et quand elle osait me dire, et c'est terrible parce que ma mère et moi-même n'avons pas pu assister aux obsèques de ce jeune homme. Ma mère est très en souffrance parce qu'elle n'a pas eu le droit de voir son petit-fils. Elle n'a pas eu le droit d'assister aux obsèques. Donc c'est totalement aberrant. Et là, je me dis, mais... A-t-elle vraiment aidé son fils, quoi, quand il était dans la souffrance ?
Bon, c'est une question qui effectivement est légitime.
Mmh.
Après, en fait, vous ne connaissiez même pas votre neveu vous-même.
Absolument pas.
Et est-ce que vos filles ont de bonnes relations avec leur tante ? Est-ce que c'est...
Par obligation.
D'accord.
Par obligation, parce que leur père les oblige à appeler leur tante. C'est vraiment... voilà, c'est de l'obligation. Mais ont-elles des sentiments vis-à-vis de cette femme ? Je leur ai expliqué la situation il y a quelques années. Maintenant, elles ont beaucoup de peine pour leur cousin qui est parti, parce que dans des conditions telles que celle-là, c'est terrible. Surtout qu'il avait 2 enfants. Et oui, elles ont beaucoup de peine. Mais je vous avouerai que moi, j'ai beaucoup de chagrin pour mon neveu. En plus, c'était l'aîné de mes neveux. Mais j'ai aucune pitié pour cette femme. Alors, est-ce normal ?
J'ai envie de vous poser la question. Est-ce normal ?
Oui.
Moi, je vous la pose.
Carine. Oui, c'est normal.
Bon.
Parce qu'elle m'a fait trop souffrir. Et vous savez ce que j'ai entendu encore ce matin, j'ai rendu visite à ma mère. Mon frère l'a appelée. Et il lui a dit, mais tu sais, alors maintenant c'est bizarre, hein, parce que ça n'est plus tabou dans la famille, le suicide. Et il lui a dit, mais tu sais, Karine, si elle avait été un homme dans cette situation, oh, elle se serait certainement suicidée.
Ça reste...
Exactement.
Ouais, ça reste un drame quand même. Et c'est triste pour votre sœur. Quoi qu'elle ait pu faire et quoi qu'elle soit, c'est un drame pour elle.
Bien sûr.
Et pas de pardon envisageable entre vous, ça c'est...
Ah non, je ne peux pas.
Oui, vous ne pouvez pas. Ouais.
J'ai trop souffert. Mmh. J'ai trop souffert. J'ai été vénérée lorsque j'ai épousé le père de mes filles, puisque c'est un homme d'affaires. Très... aisé, donc qui ça la dérangeait quelque part, cultivé, ce qui n'était pas le cas de son époux. Bref, je suis un peu dure, mais c'est un peu la réalité. Et ah non, je ne peux pas pardonner à ce genre de femme, puisque ce qu'elle l'a souhaité avec d'autres personnes, c'est de m'anéantir. À un moment.
Mais par conséquent, Karine. Elle a encore de l'emprise, par conséquent, sur vous.
Mais c'est ça, le problème.
Ben oui.
Et comment faire Et vous savez, quand je la rencontre, parce que j'ai évoqué ce sujet à mon psychologue,
ouais.
Et il me dit, bien avant que, malheureusement, il y ait ce drame dans la famille, parce que ça restera toujours un drame pour nous tous, même si, malheureusement, je ne connaissais pas ce neveu qui avait l'air adorable. Comment dirais-je, il me dit, mais il suffit de l'ignorer, mais c'est difficile après tout le mal qu'elle a pu me faire.
Ouais, et puis c'est votre sœur, vous avez grandi, il y a plein de souvenirs, plein d'anecdotes, une chanson, un son, enfin une odeur, un plat, enfin c'est sûr que c'est
non,
compliqué.
Non, je n'ai pas d'anecdote avec elle, je n'ai
rien.
Ah, vous
n'en avez pas, bah, heureusement.
Tant mieux.
Oh, je vois l'heure s'écouler, je me dis mince.
Mais je sais. Oh.
On a tellement... Et puis je sens bien que vous avez tellement de choses encore, puis ça vous fait du bien de parler.
Oui, puis vous, je disais, Jules, tout à l'heure, il m'a appelé à 20h, et tout à l'heure, je voyais les heures passer, et je me disais, oh là là, ça va être un peu juste.
Oui, ça va être juste.
Je me permettrais, parce que c'est vrai que j'ai toujours peur de cette femme, et je suis toujours en souffrance, hein, malgré tout. Hein,
ouais,
avec, je me permettrai de vous rappeler ça.
Mais bien sûr, Karine.
Si vous acceptez.
Mais évidemment, je suis là pour ça.
D'accord.
D'accord, oui. Donnez-moi
mais je vais suivre vos conseils, les bons hommes.
Les bonhommes allumettes.
Allumettes, voilà. Et puis voilà, ça je vais regarder sur Internet ces deux conseils de votre part.
J'attends votre appel. Je vous embrasse.
Je vous embrasse également, Sonia.
Bonne nuit,
et bonne nuit à vous.
Merci.
Merci, au revoir.
Il est 1h03, vous écoutez Europe 1 et c'est tout de suite le programme de la nuit.